Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Des bugs à nouveau, comme l'an dernier pour le premier jour d'école à la maison. La déprogrammation continue dans les hôpitaux pour laisser place aux malades du Covid. Première vaccination ce matin au Stade de France, pendant que la déprogrammation continue dans les hôpitaux. Air France redevient compagnie nationale. Bruxelles donne son feu vert à la remontée de capital de l'État jusqu'à 30%. L'euthanasie ou suicide assisté, à nouveau en débat passionné à l'Assemblée cette semaine. Et puis dans l'enquête sur la mort d'Estelle Mouzin, Monique Olivier reconnaît avoir participé à la séquestration de la petite fille. Les fouilles reprennent dans les Ardennes. Invité d'Europe Midi, Maxime Le Forestier qui chante et raconte Brassens. Il publie Brassens et moi chez Stock.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'école à la maison, les militaires à la vaccination et la queue pour les piqûres au Stade de France. Voilà les trois photos du jour. D'abord, la classe à distance qui a recommencé comme l'an dernier avec une série de bugs. Réseau saturé, système planté, site inaccessible, notamment en Île-de-France, Virginie Riva.
Oui, depuis ce matin, Twitter regorge de captures d'écran, de bugs techniques, des bugs liés à un nombre trop élevé de connexions et notamment en Île-de-France. Lucie est maman de trois enfants, deux au primaire et Salomé en troisième. Elles cherchent ensemble à se connecter depuis 9h30.
Donc on a essayé avec tous l'ordinateur, le téléphone et aucune connexion, aucun accès au site en fait. Je l'ai laissé dans sa chambre pour pouvoir moi gérer mes deux autres enfants.
Le ministre Jean-Michel Blanquer, en déplacement dans une école dans le 15e arrondissement de Paris, a tenté de s'en expliquer.
D'après les premiers éléments qu'on a, vous savez, c'est ce qu'on appelle les environnements numériques de travail. Ça dépend des collectivités locales, en l'occurrence de la région Île-de-France. Je crois qu'il y a quelques problèmes dans une ou deux autres régions aussi, qui dépendent d'un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques temps et donc qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexions ce matin. Je sais qu'ils sont à pied d'œuvre pour changer cela et j'espère que d'ici ce soir, ces problèmes-là seront réglés.
Selon le SNES, le problème s'étend également aux Hauts-de-France, à l'Occitanie, au Grand Est, à la Normandie et au Centre. Le ministre qui rappelle qu'il y a d'autres ressources à utiliser dans l'attente et notamment pas mal de vidéos à disposition des profs. C'est ce qu'a fait le prof de maths de Salomé. Faute de pouvoir démarrer son cours en visio, il a envoyé un lien vers une vidéo.
Oui, il y a eu aussi des lenteurs de connexion sur le CNED, le dispositif Ma Classe à la maison entre 8h et 10h. À l'origine, plusieurs attaques simultanées sur les serveurs, d'après le ministère. Deuxième image de la matinée, l'ouverture du plus grand centre de vaccination de France dans la plus grande enceinte sportive du pays, le Stade de France. Yasmina Katou, les premières injections ont commencé à 9h15.
Absolument, mais il y a du retard accumulé depuis ce matin. Une très très longue file d'attente s'est formée le long de la porte G du Stade de France. À la sortie du vaccinodrome, c'est le soulagement. Marie tentait depuis un mois d'obtenir un créneau. Sa mère est enfin vaccinée.
Mes parents ont essayé de s'inscrire sur le centre de vaccination près de chez eux et il n'y avait plus de place.
Madame, soulagée du coup que votre fille vous ait inscrite aujourd'hui?
Oui, parce que ça a l'air d'être la cohue en ce moment. C'était toujours plein.
Et puis, dans la file d'attente, il y a d'autres candidats au vaccin, disons hors catégorie, non éligibles et qui ont quand même obtenu un rendez-vous comme Marie.
J'ai téléphoné et une personne m'a dit que comme j'étais dans ma 60e année, je pouvais venir me faire vacciner dès aujourd'hui. Et les 60 ans, normalement, c'est à partir du 16 avril.
Vous souffrez d'une maladie particulière?
Non, je n'ai pas de comorbidité, j'ai juste 60 ans cette année. J'aimerais bien me faire vacciner maintenant parce que je vais garder ma petite fille de 2 ans puisque les crèches sont fermées. J'aimerais être vaccinée le plus rapidement possible.
Et Marie n'est pas la seule. Un autre homme croisé dans la file, à peine âgé de 60 ans, a lui aussi obtenu un rendez-vous pour se faire vacciner.
Yasmina Katou depuis le Stade de France pour Europe 1. Début également ce matin des vaccinations dans les hôpitaux militaires. 7 établissements à Saint-Mandé et Clamart, l'Aveyron à Marseille et Sainte-Anne à Toulon, à Brest, Metz et à Bordeaux. Les prises de rendez-vous sont ouvertes sur Doctolib. Dans les hôpitaux, toujours plus de malades Covid, plus de 5400 en réanimation et soins intensifs. Les déprogrammations pour d'autres pathologies continuent. Victor Delande, plusieurs centaines de patients sont en attente d'intervention.
Oui, selon les termes des autorités sanitaires, ce sont des interventions non urgentes qui sont déprogrammées dans les hôpitaux pour faire de la place aux malades du Covid. Mais pour ces patients qui attendent une transplantation rénale, 1000 ont dû patienter l'année dernière à cause de la pandémie, ou ceux qui souffrent le martyr en attendant d'être opérés d'une hernie discale, cette attente est incompréhensible. Autre variable d'ajustement, dans les déprogrammations, les reconstructions mammaires mammaire pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Les signalements se multiplient ces derniers jours. C'est inacceptable pour Céline Lisraoux, directrice de l'association Rose Up.
Si c'est déprogrammé, c'est que c'est pas important. Et d'ailleurs, beaucoup de nos adhérentes nous le disent. Ce qui les rend malheureuses, c'est que quand elles sont déprogrammées, parfois pour la troisième ou la quatrième fois, imaginez-vous, hein, d'un coup de téléphone la veille pour le lendemain, on leur dit bon, bah, c'est de l'esthétique ou c'est pas grave. Enfin, la reconstruction d'un sein, cette reconstruction dit bien ce que ça veut dire. Il s'agit pas d'un truc esthétique, il s'agit de retrouver son intégrité physique.
À Paris et Marseille, plus de 40% des chirurgies sont actuellement déprogrammées et ça devrait augmenter très vite dans les jours à venir. Dans les Hauts-de-France, une opération sur deux est reportée actuellement et là aussi, avec l'afflux de patients Covid, toutes ces déprogrammations vont se multiplier.
L'église était trop petite, comme on dit parfois, et les paroissiens bien imprudents. Vidéo et témoignage diffusés hier soir par Le Parisien. Une messe samedi en l'église parisienne Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, rue du Conservatoire, a rassemblé pendant 4 heures des centaines de personnes, sans masque, ni pour les prêtres, ni pour les fidèles.
J'étais assez surpris de voir finalement cette église pleine à craquer, de gens pour la plupart âgés, sans masque, tout le monde serré dans un endroit clos, des gamins qui se font baptiser tous la tête dans la même flotte, les gens qui communient tous à la main, là, le curé qui passe sa main de bouche en bouche, mais j'étais vraiment estomaqué.
Étienne, témoin de cette messe avec Le Parisien, ce matin, le diocèse de Paris se dit stupéfait et condamne ces pratiques. À Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, un incendie a causé d'importants dégâts dans la collégiale. On ne sait pas s'il s'agit d'un acte criminel, mais un homme vient d'être placé en garde à vue. Gérald Darmanin s'est rendu sur place. On en reparle dans le journal de 13h.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite dans un instant, Air France recapitalisée et le débat sur l'euthanasie.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Pour Air France, c'est une sorte de renationalisation. L'État, qui n'avait plus que 14% du capital de la compagnie, va remonter à 30%. Clément Le Saffre, Bruxelles, vient de donner son feu vert au sauvetage d'Air France pour une aide de 4 milliards d'euros.
Oui, d'abord, l'État va transformer un prêt de 3 milliards d'euros accordé l'an dernier à Air France en apport de fonds propres. Puis, dans un deuxième temps, il y aura une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Avec cette opération, l'État français sera plus que jamais le premier actionnaire d'Air France, 30% du capital. C'est le niveau le plus élevé depuis la fusion avec KLM en 2004. En contrepartie de ce soutien financier, Air France va céder 18 créneaux horaires à la concurrence sur l'aéroport d'Orly. Alors les créneaux, ce sont des fenêtres de décollage et d'atterrissage. C'est le trésor des compagnies aériennes. Elles se battent pour en avoir le plus possible en fonction de leur nombre d'avions et de leur capacité à les faire voler plus ou moins de fois dans une journée. Pour Air France, cette cession représente 4% des 125 000 vols qu'elle opère chaque année depuis Orly. Les conséquences pour les passagers seront limitées, a assuré le directeur général Ben Smith ce matin. Selon lui, l'apport de l'État va surtout apporter de la sérénité à la compagnie fortement secouée par les turbulences du Covid.
Merci. Des fouilles ont repris aujourd'hui dans les Ardennes après un tournant sans doute décisif dans l'enquête sur la mort d'Estelle Mouzin. Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, vient d'avouer son implication dans la disparition de la fillette. Jusqu'ici, elle disait qu'elle était au courant. Cette fois, Marion Dubreuil, elle affirme qu'elle était là.
Oui, Monique Olivier affirme qu'elle a vu Estelle vivante. Elle raconte qu'elle a parlé à la fillette et qu'elle l'a gardée pendant plusieurs heures. C'était dans la maison de la sœur de Michel Fourniret, à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, là où le tueur en série retenait Estelle. Monique Olivier prétend en revanche qu'elle n'a pas assisté au meurtre. Mais elle a expliqué qu'elle a aidé son mari à transporter le corps de la fillette en voiture jusqu'à un petit bois situé à quelques kilomètres. C'est là que Michel Fourniret l'aurait enterré. C'est là que les fouilles ont repris depuis ce matin. Ces aveux surviennent un an et demi après les premières confessions de Monique Olivier face à la juge d'instruction Sabine Kerris. En novembre 2019, rappelez-vous, elle faisait voler en éclats l'alibi de Michel Fourniret. Elle reconnaissait enfin avoir passé le coup de fil qui localisait son mari à plus de 250 km du lieu de disparition d'Estelle.
Marion Dubreuil, le débat toujours passionné sur l'euthanasie ou le suicide assisté, relancé par une proposition de loi qui sera discutée jeudi à l'Assemblée nationale. Claudia Bertram, vous venez de rencontrer son initiateur, le député Olivier Falorni.
Oui, le député du groupe Liberté et Territoires veut apporter une nouvelle réponse au débat sur la fin de vie. Olivier Falorni veut aller plus loin que la sédation profonde autorisée par la loi actuellement.
Cette loi, Claes Leonetti, a montré toutes ses failles, toutes ses insuffisances. Nous considérons que la personne doit partir rapidement et sans douleur, à certaines conditions, évidemment fixées par la loi. Les conditions sont extrêmement encadrées et c'est de permettre de partir rapidement et sans douleur quand le malade l'a décidé.
Mais l'adoption du texte dans l'hémicycle jeudi est compromise. Plus de 3000 amendements ont été déposés. Certains dénoncent une obstruction parlementaire de la part de la droite. Mais la députée LR Annie Genevard estime que ce sujet mérite plus qu'une journée de débat.
C'est un vrai sujet qui mérite d'être traité convenablement, qui mérite que toutes les composantes de la société puissent s'exprimer, s'en emparer, franchir ce pas, franchir ce cap. C'est loin d'être anodin et ça mérite un long et large et profond débat qui n'a pas eu lieu à mon sens.
Un sujet sensible qui divise quasiment tous les groupes parlementaires et qui suscite l'embarras du gouvernement.
Le texte sera donc discuté, présenté demain en commission et débattu dans l'hémicycle à partir de jeudi. Merci Claudia Bertram depuis l'Assemblée nationale. Le temps, Anissa Haddadi, des averses. Et des flocons, encore des flocons arrivent cet après-midi.
Oui, ça y est, ils sont là effectivement, Patrick, sur la moitié nord. Le temps est de plus en plus agité. Au fil des heures, on va vraiment voir sur la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne, la Franche-Comté, on va voir le ciel se couvrir avec des averses de pluie, de grésil et de neige mêlées. Tout ça, ça s'appelle tout simplement les giboulées. C'est assez furtif, ça dure quelques minutes, parfois une petite heure, mais c'est surtout ces flocons qui arrivent en pleine et qui risquent de blanchir les sols, donc sur la Normandie, la région parisienne et le Grand Est. Dans le sud, le ciel est menaçant sur les Pyrénées, partout ailleurs le temps est assez lumineux. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 100 km/h cet après-midi. Les températures, elles continuent de baisser, surtout sur la moitié nord, avec seulement 7 degrés à Nancy et Lille, 8 à Aurillac et Caen, 9 pour Paris, 12 à Bordeaux. Ça baisse aussi dans le sud avec seulement 15 degrés à Marseille, 18 à Montpellier et 20 pour Bastia.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, invité d'Europe Midi, Maxime Le Forestier qui chante, raconte et célèbre Georges Brassens qu'il a connu à ses débuts, à quelques semaines du centenaire de l'artiste et immense chanteur. Maxime Le Forestier avec nous dans Europe Midi, à tout de suite.
Europe Midi. Écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Maxime Le Forestier.
Bonjour Patrick.
À l'approche du centenaire de Georges Brassens, vous publiez Brassens et moi chez Stock, souvenir d'un immense créateur qui a changé votre vie depuis ce jour de 63. Vous aviez 14 ans, vous avez découvert en même temps la guitare, la chanson et Brassens, parce que le vendeur de partitions de chez Paul Boecher, où vous veniez d'acheter votre première guitare, vous propose 4 chansons de ce Brassens dont vous n'aviez jamais entendu parler. C'est comme ça que la guitare sur les genoux, vous avez déchiffré d'abord ceci.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis.
Le parapluie, c'était difficile à déchiffrer.
Non, pas trop, mais je savais lire la musique, donc c'était pas trop compliqué pour moi. Ce qui était difficile, c'était d'apprivoiser la main gauche. Moi, j'avais une main gauche de violoniste et il fallait utiliser plusieurs doigts en même temps. Donc mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la découverte de la chanson. Finalement.
Bien sûr, bien sûr. Mais parlons de la musique un moment, Maxime Le Forestier. La musique de Brassens est trop souvent sous-estimée.
Elle n'est pas écoutée par des gens qui comprennent ça. Ça semble toujours pareil parce que c'est le même instrument. C'est les guitares et la contrebasse. Mais si on plonge dans les partitions et qu'on regarde ce qu'il joue, ce que la guitare joue, c'est extrêmement
riche
et imaginatif.
Deuxième épisode marquant de votre relation avec Brassens, la vraie rencontre, octobre 72, vous figurez dans la première partie de son tour de chant à Bobino, vous osez enfin l'aborder, vous allez nous le dire, et puis quelques jours plus tard, il vous fait un cadeau sur scène en chantant ceci.
Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre, et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps.
Celui qui a mal tourné cette chanson, il la chante pour vous, Maxime Le Forestier.
Oui, elle n'était pas dans le tour de chant, et je lui avais souvent dit, mais pourquoi tu chantes pas celle-là, elle me plaît, et tout. Et non, elle n'a pas marché. Bon, et puis le soir de ma dernière, j'ai entendu pour la première fois la voix de Brassens parler sur scène. Cette chanson-là, je la chante pour Maxime et il a chanté celui qui a mal tourné. Je dois dire que j'ai pris une claque.
Oui, parce qu'il ne disait rien entre ses chansons. Il enchaînait son tour de chant, c'était des chansons qui...
À l'époque, ça ne se faisait pas de parler sur scène. Brel ne parlait pas. Piaf annonçait juste les auteurs et compositeurs des chansons. Parler sur scène ne se faisait pas.
Voilà, et donc c'était un vrai cadeau. Juste avant, premier contact dans sa loge, vous lui proposez un coup de main pour ses cordes de guitare qui rouillent trop vite. Et dans un grand sourire, il vous traite...
De petit con, oui. Mais avec... celui qui a jamais été traité de con par Brassens ne l'a jamais rencontré, sauf Gibraltar et sauf toutes les femmes. J'ai jamais entendu dire cette connasse de...
Ouais. Gibraltar, c'est son homme à tout faire, oui. Pierre Ottaniente. Oui. Anecdote très révélatrice de Brassens. Enfin, je trouve un jour que vous déjeunez chez lui, vous lui parlez de l'hommage que lui a rendu Jean Ferrat dans une chanson.
Est-ce un reflet de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches qui les séduit ?
Et là, que vous dit Brassens ? Que c'est pas français ?
Il dit... Attends, c'est quoi la phrase exacte ? Est-ce un reflet de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches qui les séduit ? Le sujet de être est donc les plis de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches. Donc il aurait dû dire sonce, le pli de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches, et continuer qui les séduisent.
Qui les séduisent.
On ne commence pas une chanson sur Brassens par une faute de français.
Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais il avait la dent dure en privé.
En privé, oui. Ouais. En public, jamais il aurait dit une chose pareille.
Ouais.
Moi, je me permets maintenant de le dire parce que cette chanson de Ferrat, je ne l'aime pas non plus.
Bon, très bien. Brassens est mort à 60 ans.
Ouais.
60 ans seulement, en laissant des chansons... achevé mais non enregistré, c'est d'ailleurs écrit à l'encre rouge, hein, en haut de ses manuscrits, musique faite,
oui.
Voilà.
Oui.
Et au début des années 90, son fidèle secrétaire, homme à tout faire, Pierre Ottaniente, alias Gibraltar, est venu vous remettre la Bible, tout ce que Georges souhaitait voir lui survivre, 632 pages.
Oui, 632 pages, alors là-dedans il y a évidemment toutes les chansons qu'il a écrites et enregistrées. Il y a des chansons qu'il a enregistrées mais pas écrites. Il y a du Bruant, il y a des tas de choses comme ça. Il y a 13 textes sans musique et il y a une vingtaine de chansons que je découvre.
Et c'est là qu'a commencé cette aventure. Vous avez d'abord donné vie à des chansons inédites, puis à l'ensemble de son répertoire. Aventure extraordinaire. 500 concerts dans le monde entier.
Oui.
Vous avez joué, vous le racontez, à Londres, en Afrique, au Soudan, au Yémen, à Johannesburg, partout dans le monde, vous avez redonné vie à Brassens.
Oui, c'est 4 ans de ma vie, enfin 2 fois 2 ans, ça m'a permis de constater que Brassens avait une existence internationale, qu'il y avait un prof de français à La Haye, qui est devenu prof d'université, parce qu'il voulait comprendre Brassens, donc il était devenu prof de français. Il y a un flic au Yémen qui était un fou de Brassens. J'ai rencontré des gens comme ça, étranges.
Oui, parce que Brassens, c'est un chanteur populaire, mais qui n'a pas été popularisé particulièrement par la radio ou par la télévision. C'est quelque chose qui se transmet de proche en proche, écrivez-vous.
De personne à personne, oui. Pendant ces 500 concerts, quasiment tous les soirs, j'ai bavardé avec des gens du public. Je leur ai demandé ce qui les avait amenés à Brassens. Et il y en a un seul qui m'a dit la radio. Tous les autres, c'est un prof, les parents, quelqu'un.
Le tout premier concert Brassens, vous le faites à Trappes, en avant-première du Sentier des Halles. Et ce concert a duré 3h45.
Oui, parce que je n'avais pas réussi à choisir, à construire un tour de chant. C'est impossible pour moi de choisir des chansons de Brassens. Et je les ai numérotées, et j'en ai chanté une, en disant, bon, ça c'est la numéro 9, je crois. Et puis, donnez-moi un numéro, et ça a commencé comme ça. Oui. Mais je ne pouvais pas savoir combien de temps ça allait durer.
Oui. Ce sont vos doigts qui vous ont rappelé à l'ordre, parce qu'évidemment, après 3h45, seul à la guitare, on a mal aux doigts quand même.
On a mal aux doigts, confirme.
Tout cela a été enregistré sur scène, c'est maintenant un coffret de 6 CD avec... 9, ah bon, 9, bah, j'avais 9 CD. Alors, 171 chansons, vous êtes d'accord, ça, oui, sur le chiffre. Oui. Et ce qui est merveilleux dans ces disques, c'est d'entendre le public découvrir des titres qu'il ne connaît pas, comme ici, à la fin de « Si seulement elle était jolie ».
Si seulement elle était fidèle, je dirais tous les pas perdus. Elle m'empoisonne, c'est entendu, mais c'est une épouse modèle. Malheureusement, elle est papa, folle d'un cul qu'elle n'a pas, folle d'un cul qu'elle n'a pas. Si seulement elle était moribonde, je dirais tout n'est pas perdu. Elle me trompe, c'est entendu, mais elle va quitter le monde. Malheureusement, jamais elle tousse, elle nous enterrera tous, elle nous enterrera tous.
Si seulement elle était jolie. Avec le public qui rit des trouvailles de Brassens sur cette chanson.
C'est un trésor de la chanter celle-là, parce que les gens la découvrent. Et on s'aperçoit qu'elle est d'une efficacité redoutable. Ouais, pas très politiquement correcte, mais enfin, il a écrit des belles chansons d'amour.
Parmi les inédits, il y a aussi « Tant qu'il y a des Pyrénées », avec, à la fin aussi, cette pique aux chanteurs engagés.
Oui. « S'engager par le mot, trois couplets, un refrain, par le biais du micro, par le biais du micro. » Ça se fait sur une jambe et ça n'engage à rien. Et peut rapporter gros, et peut rapporter gros.
C'était un peu pour vous ça aussi, non? Pour un autres, le oui. Forestier première manière.
Oui, ben, les chanteurs contestataires des années 70.
Comment résumer, Maxime Le Forestier, ce qui vous lie à Brassens? Vous posez la question à la fin de votre livre. C'était pas un ami, non, pas un modèle. Mais un maître, oui, un peu quand même.
Moi, je dirais plutôt un aiguilleur, quelqu'un qui sans le savoir, m'a indiqué un chemin. Mais ce qui est curieux, c'est que ça s'est passé plusieurs fois dans ma vie. Ça s'est passé à 14 ans, ça s'est passé en 72, Bobino. Il ne m'aurait pas engagé à Bobino, j'aurais peut-être pas eu de succès. Et puis après, tout ce qui a déclenché la tournée, les nouvelles, etc., j'ai l'impression qu'il a été là à plusieurs moments cruciaux de ma vie.
Merci beaucoup Maxime Le Forestier. Brassens et moi chez Stock, et Le Forestier chante Brassens, une intégrale, non pas en 6, mais en 9 CD sortis le 2 avril. Merci à vous.
Merci Patrick.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le 13h, d'autres informations avec Romain Oquet, puis la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonne journée et à demain.